Enfant prodige, Yehudi Menuhin aura parcouru le XXe siècle, s'illustrant au plus haut sommet de la musique. Il compte parmi les plus grands violonistes. Je lui dois d'avoir découvert, en l'accompagnant partout, les violoneux écossais, les tziganes de Hongrie et Ravi Shankar en Inde. Sa curiosité était vraiment sans limite.
Yehudi Menuhin, à 10 ans, vous étiez célèbre et je connais peu d'êtres qui soient, comme vous, aujourd'hui encore, universellement admiré. Plus qu'un homme, et votre vie en témoigne, vous êtes un sage. Mieux encore, un homme libre, mais cette liberté, l'avez-vous durement payée?
Non, je n'ai jamais eu l'impression que mes dettes étaient dures. Mes dettes étaient nécessaires, importantes, et je crois que c'est peut-être du fait que j'ai payé certaines dettes dues sans doute à de l'ignorance, comme toujours, mais une ignorance qui est parfois innocente et nécessaire, puisqu'on n'est pas né toujours sage. Je ne regarde pas une dette comme une chose négative. Je le considère plutôt comme garantie de ce qu'on gagne en la payant.
La sagesse, c'est une charge ?
Je ne dirais pas. Je ne dirais pas. Au fond, je ne dirais d'abord, je n'admets pas d'être traité en sage. Je me connais trop bien pour être de votre avis, pour accepter cet hommage. Je ne suis pas sage. J'ai quelques idées, peut-être, sur l'équilibre intérieur, l'équilibre entre éléments de la société, l'équilibre en musique, en art. Mais j'ai tout de même, heureusement, peut-être, encore des éléments de déséquilibre qui garantissent un élément de tempérament et quelquefois même de colère, si justifié ou non, je ne sais pas. Peut-être moins que d'autres, mais il reste encore suffisamment de déséquilibre pour me rendre très, très humain.
Yehudi Menuhin, en commençant cet entretien, vous pouvez être étonné que je puisse parler du sage tout de suite plutôt que du violoniste.
Enfin, je ne sais vraiment pourquoi, soudainement, j'ai acquis cette renommée de sage. C'est peut-être plutôt celui qui cherche, le fait que je cherche quelques renseignements, peut-être, sur les mystères qui seront toujours, que vous m'appelez sage. Mais c'est plutôt la route, si vous voulez, vers une sagesse assez modeste qui provoque cette appellation. Mais ce n'est pas la sagesse, la voilà sur la table, évidente. Non,
il y a peut-être une raison à tout cela, c'est que vous êtes un grand musicien, c'est que vous avez été célèbre très jeune, à 10 ans, et qu'ensuite, vous avez appris à vous chercher.
Oui, c'est peut-être cette raison-là. C'est peut-être que j'étais retardé à 10 ans, n'est-ce pas ? Si retardé qu'il fallait que je me retrouve.
Yehudi Menuhin, François Eschenbach vous consacre un film, Chemin de lumière, et que produit Bernard Chevry. Avez-vous ressenti cette attention comme un hommage ?
Vous savez, le public toujours me demande si, quand j'étais jeune, je me sentais l'enfant prodige, etc. Toutes ces appellations, toutes ces catégories, ces hommages, comme vous dites, public, vraiment ne me touchent pas, excepté que je suis très reconnaissant au public de me vouloir bien et de m'aimer. Mais au fond, ça n'a rien à faire avec ce qui se passe à l'intérieur. Ça n'a rien à faire avec le travail du violoniste, de l'homme, avec la vie de famille, avec les pensées, avec les anxiétés publiques, personnelles, de l'humanité et tout le reste. Ça ne compte pas dans le bilan, disons, de ce qui est important pour moi, à l'intérieur.
Et c'est en cela que vous êtes un peu différent d'Arthur Rubinstein, qui, lui, le ressentait comme un hommage.
Oui, si vous voulez, c'est un hommage, mais c'est un hommage à qui, à quoi ? Un hommage à ceux auxquels je dois moi-même le peu que j'ai. C'est pas un hommage alors à moi, c'est un hommage à la musique, un hommage à UNESCO, un hommage à mes parents, un hommage à l'humanité, un hommage aux écrivains que j'ai lus, à Shakespeare, à Goethe. C'est un hommage peut-être à la nature que j'adore et que j'aimerais protéger de nos jours quand elle est violée. C'est un hommage alors à des pensées. Ce n'est pas un hommage à... Je ne peux pas le prendre comme, personnellement, vous voyez.
Mais n'est-ce pas cela trop de modestie?
Je ne sais pas, je ne suis non plus modeste, parce qu'il y a certaines choses dont je suis absolument sûr, il y a certaines choses que je défendrai sans modestie. Je ne suis pas... Je ne me trouve ni modeste ni fier, ou peut-être tous les deux à la fois.
Yehudi Menuhin, j'ai vu ce film qui est admirable et j'ai retenu les dernières images. Lorsque vous jouez, et lorsqu'il y a tous ces visages de jeunes gens et de jeunes filles qui vous écoutent.
C'est la fin du premier mouvement du concerto de Brahms. Nous avons enregistré en Israël avec l'orchestre philharmonique d'Israël.
Ces jeunes écoutent religieusement.
C'est merveilleux.
On devine même des larmes qui coulent.
C'est vraiment un moment, comme vous dites, religieux. Et je trouve que, indépendamment de toutes les religions, cet élément de religion doit exister et existe dans toutes les belles choses. La révérence, le moment d'intense tranquillité, le moment de recherche, le moment de trouver. Et ce moment est essentiel. Évidemment, dans les religions, c'est encadré dans les belles églises, dans le rite, mais ça existe tout pur dans chaque personne. Et quand le moment arrive, comme à la fin du mouvement de Brahms, où il y a ce contact avec ce qui a inspiré Brahms, et que ça passe à travers la musique et l'interprète au public, c'est un moment magique et c'est un moment religieux.
Yehudi Menuhin, la musique, comment faut-il l'écouter?
Mais il y a toutes sortes de musiques. C'est plutôt on ne peut pas généraliser et dire toute musique, il faut l'écouter d'une façon. Il y a la musique qui vous amène à danser, la musique qui vous amène à la sérénité, à la contemplation. Il y a la musique qui libère toutes les forces animales, si vous voulez, de notre corps. Il y a la musique qui nous rend guerriers, la musique qui nous rend paisibles. Donc on ne peut pas dire la musique, il faut l'écouter d'une certaine façon.
La musique, c'est la vie, d'abord.
C'est la vie. Et comme la vie, la musique qui reflète la vie présente tous les aspects de la vie.
C'est l'auberge espagnole.
Oui.
Il faut y apporter ce que l'on ressent.
Ce qu'on ressent, oui.
Yehudi Menuhin, vous êtes citoyen américain, vous êtes né de parents russes, vous vivez à Londres, mais on peut dire que vous êtes surtout un citoyen du monde.
Oui, à peu près, à la longue, c'est ce qui se... C'est ce qui se dévoile. Je suis né, évidemment, déjà un peu citoyen du monde parce que l'Américain, pour la plupart, c'est quelqu'un qui, bien qu'il est né aux États-Unis, vient d'autre part. Ses racines sont relativement récentes. Donc, l'Américain et le Juif sont peut-être les deux éléments qui ont les moins de racines, peut-être, et qui en ont le plus besoin. Je crois ce qui manque aux Américains, justement, et ce qui existe au Mexique, c'est qu'il n'y a pas de paysans américains qui ont enfin absorbé, si vous voulez, les peaux rouges. Les peaux rouges ont été exterminées et l'Amérique a été bâtie sans racines dans le sol et sans sous-sol. Et ça explique un peu le fait pourquoi l'Américain peut et est le premier, si vous voulez, à mettre le pied sur la Lune. C'est un peu... il ne peut pas se vanter comme Américain. Je trouve ce nationalisme très bête et très enfantin qui veut prétendre que l'Amérique a été premier. Évidemment, c'était un effort américain, mais combien de savants allemands, français, russes, je ne sais qui, anglais, ont contribué à cela. Donc c'est un événement humain de l'humanité d'aujourd'hui, un événement contemporain qui n'a rien à faire avec le nationalisme.
Yehudi Menuhin, ce mot juif, vous le portez à travers le monde, car votre prénom Yehudi,
oui,
ça veut dire juif.
On ne peut pas y échapper. C'est que mes parents ont décidé de me nommer ainsi, et puisque je n'ai jamais rien changé de ma, ni nationalité, ni nom, je reste avec.
Comment choisit-on un instrument lorsqu'on se sent appelé par la musique? Vous avez choisi le violon.
C'est une chose d'instinct, qui d'ailleurs était très répandue parmi les juifs russes. Le violon, comme je dis toujours, est une prolongation de la voix. C'est l'instrument la plus proche de la voix, l'instrument le plus intime, l'instrument qu'on porte avec soi, l'instrument qui est le plus sensible aux sensations, à l'émotion personnelle. C'est donc un moyen d'expression un instrument en soi-même des plus beaux comme forme, quelque chose qu'on peut aimer, qui est à la fois sensuel et qui appartient à l'âme. Un instrument qui est facile à transporter, donc sans racines, on amène le violon, n'est-ce pas? Et aussi, le violon appartient à une autre race nomade, parce que le juif n'est pas nomade, il est errant, si vous voulez, mais il est urbain et littéraire, tandis que les tziganes, c'est une race nomade qui ont leur propre langue, et qui ne sont pas urbains. Mais là aussi, le violon est l'instrument qui exprime le peuple tzigane. Et je crois qu'il y a une relation entre ces deux peuples qui est très proche, qui devrait être très proche, parce que le tzigane et le juif, ce sont deux pôles d'une même condition, justement une condition où on n'a pas un sol unique sous ses pieds, une condition un peu qui comprend les ailes et le vol, avant que le vol n'ait été inventé. Et le violon, donc, dans cette région de la Russie, de sud de Russie, où se trouvaient aussi les tziganes, et les tziganes roumains, les tziganes hongrois, c'était tout naturel que cela s'est développé ainsi. Et même un rabbin que nous connaissions bien à New York, de Solapool, il est mort maintenant, un homme très distingué, m'a dit que quand il était en Palestine, au début du siècle, ce qui est maintenant l'Israël, il y avait une émigration assez grande de juifs de la Russie, et il dit, c'était incroyable, il dirait que sur chaque 10 personnes, il y avait 8 personnes avec une boîte à violon. Peut-être c'est exagéré, mais de toute façon, c'est pour dire que le violon était vraiment l'instrument du peuple.
Yodé Menouin, aujourd'hui encore, vous vous considérez comme un nomade?
Non, je ne me considère pas. Malheureusement, en pratique, je voyage beaucoup, plus que je n'aimerais, parce que maintenant, j'aime me trouver dans les lieux que j'aime, sans devoir passer par le voyage. Le voyage, surtout les aérodromes et tous les moyens de voyage, deviennent encombrés et difficiles de nos jours. Mais mes racines, maintenant, sont vraiment dans différents endroits. Et je suis une plante honnête qui, simplement, a poussé d'une façon un peu différente des autres et qui a, justement, des racines dans différents endroits, mais qui a des racines.
Pourquoi dites-vous une plante honnête?
Parce que il y a de ces plantes qui ne sont pas malhonnêtes pour ça, mais dans la jungle, des plantes qui respirent l'air et qui n'ont pas besoin de racines. Moi, j'en ai bien besoin. Et mes racines, maintenant, si je devrais nommer les principales,
oui.
Ils seraient en Amérique, en Angleterre, en France, en Suisse, aux Indes, un peu en Israël. Et alors d'autres racines, mais qui veulent aussi s'implanter dans les pays que j'aime, tels l'Italie et peut-être un jour la Russie. Je ne sais pas si jamais j'aurai des racines en Chine. Ça, je doute.
Vous m'avez fait répéter deux mots. Vous m'avez demandé à deux reprises si vous disiez bien les mots français.
Oui, parce que
quelquefois... C'est de la coquetterie, parce que vous parlez 7 ou 8 langues.
Non, ce n'est pas de la coquetterie, parce qu'il y a certains mots, et je me trompe quelquefois, et ça m'inquiète, parce que je n'aimerais pas faire insulter cette belle langue.
Yodé Menouin, votre histoire, dit-on, est celle d'une conquête à rebours, d'une conquête patiente de l'homme sur l'enfant. Vous en voulez à l'enfant qui a réussi si jeune?
Non, pas du tout. J'ai eu une enfance assez intéressante. Et Non, je ne veux pas du tout à l'enfant. Je suis content de cette évolution qui se passe et qui n'est pas finie, espérons. Et je suis aussi reconnaissant qu'il est resté en moi, vous n'avez qu'à demander à ma femme, qu'il est resté en moi une bonne partie de l'enfant. Je suis encore très enfant. Ce n'est pas pour dire que c'est ou un avantage ou un désavantage, mais je crois que j'aime penser qu'il y a au fond de chaque être, au centre, un élément qui reste, disons, un peu innocent, un peu voulant croire au mystère, voulant chercher, n'ayant pas toutes les réponses, n'étant pas tout à fait cynique, capable de s'émerveiller, capable de regarder une chose avec amour, même si c'est une chose tout à fait simple et qui ne coûte rien. Enfin, j'ai encore ces côtés enfantins.
Oui, mais cette enfance-là, vous l'avez aujourd'hui à quel âge ?
55.
55 ans, parce que vous étiez célèbre dans un âge où les autres enfants du monde jouent au cerceau. Et à ce moment-là, vous couriez le monde et vous étiez une vedette.
Oui, c'est vrai, mais d'autres enfants, en jouant au cerceau... Je jouais d'ailleurs aussi au cerceau.
Vous aviez le temps ?
Ah, mais oui, mes sœurs et moi, nous adorions ça. Malheureusement, il n'y a pas de film, mais quand nous sommes arrivés à Paris, nous avions 3 cerceaux et nous nous promenions le long de la rue de Sèvres, du 96 rue de Sèvres, qui est près des Invalides, jusqu'à la place où se trouve le Bon Marché, l'hôtel Lutetia, parmi la foule, et nous pouvions faire passer nos cerceaux partout. Nous étions vraiment des as du cerceau.
Mais nous sommes convenus de croire qu'à ce moment-là, votre seul bonheur fut la musique.
Mais non, le cerceau y a joué aussi. C'était très amusant. Et nos promenades avec les cerceaux étaient très drôles.
Vous inventez votre enfance en ce moment.
Non, je n'invente rien. Je dis la vérité. Je dis que la vérité.
Je pense qu'il est difficile de pouvoir être un enfant comme les autres lorsqu'on est... si célèbre
non,
à 10 ans.
Mais non, écoutez, ce n'est pas du tout le cas. La célébrité dépend non de l'enfant seulement, dépend du public. Et si l'enfant n'est pas conscient de cette célébrité, s'il joue au violon et au cerceau et s'amuse à aller dans la campagne et aime bien manger la glace aux fraises, etc., il est encore assez bébé, assez enfant.
En entrant dans l'univers du spectacle, vous êtes éloigné du foyer.
Oui, mais cet éloignement, je le considère toujours comme étrange et temporaire. Il faut toujours que je rentre au foyer. C'est une aventure qui m'amuse, que j'aime beaucoup. J'adore le public, j'adore... Et même ces jours-ci, avec le film, ça m'amuse beaucoup. C'est une chose qui, comme une poupée, enfin. Si j'avais une poupée à regarder, je trouverais peut-être intéressant et amusant, mais vous me l'enleverez et je continuerai avec mon travail.
Ce film qui sort cette semaine, ce film qu'a réalisé François Reichenbach, Chemin de lumière, pour vous, c'est une nouvelle aventure. C'est une nouvelle approche du public.
Oui, et de nouveau, ce qui m'intéresse au film, je suis content que ça ait réussi, je suis content que le film ait... comme je disais ce matin à François, et fidèle à moi-même, que je suis reconnaissant à François qui n'a pas essayé de me faire vedette de cinéma en me rendant acteur, ce que je ne suis pas du tout.
Vous pensez à Arthur Rubinstein.
Mais il a le don du théâtre, il a ce talent extraordinaire, et que quelquefois j'envie, mais enfin je ne suis pas Arthur Rubinstein, mais il est merveilleux, je l'adore, et c'est un ami extraordinaire. Mais je n'ai pas ce talent. Donc, j'ai dû rester simplement dans la mesure du possible que j'ai. Et ça, heureusement, François et Bernard Chevry l'ont bien compris et je suis resté comme ça. Donc, je me retrouve, et c'est un film fidèle et honnête. Mais ce que je penserai au film, non, et pour le moment, j'y pense non en termes de film fini, mais comme toute œuvre que je... Enfin, le violon et les œuvres que je joue ne sont au fond jamais finies. On les rejoue, on y retrouve des choses, on essaie de se perfectionner. C'est plutôt le travail, l'œuvre du film, les voyages que nous avons faits ensemble, les différents épisodes dans les différents pays, aux Indes, en Californie, en Israël. Le film, pour moi, c'est la construction du film, c'est le travail qu'on y a mis. Ce n'est pas le film tout court fini.
Vous avez encore beaucoup à apprendre.
Mais je ne finirai jamais et je suis encore très ignorant. Et il y a des domaines de l'intellect, des arts, des sciences, même du corps humain que je ne connaîtrai jamais.
Oui, mais côté violon.
Côté violon, j'ai encore à apprendre, oui.
Quel musicien même... êtes-vous, Yehudi Menuhin? Comment vous sentez-vous dans cette musique?
Je me sens tout à fait à l'aise dans la musique. J'adore la musique de chambre, la musique de violon, d'orchestre. Il y a certaines œuvres dont je me suis peu à peu éloigné, d'autres dont je me suis peu à peu rapproché.
Mais je voulais dire, musicien inspiré ou musicien respectueux?
Oh, je crois tous les deux. J'aimerais m'imaginer ni des plus arbitraires qui jouent simplement selon un impulse du moment. J'espère, pas trop sec, qui n'opère que d'après des règles. Je suis tout à fait entre ces deux extrêmes. Peut-être c'est la musique de chambre, surtout récemment avec mon fils Jérémy, qui m'a donné un des plus grands plaisirs, parce que de pouvoir jouer avec son fils et d'y retrouver ce qu'on est un peu soi-même ou ce qu'on espérait être soi-même, c'est une chose merveilleuse.
Vous étiez content pour lui ou pour vous?
Pour lui et pour moi. Et c'est le quatuor de forêt qui est dans le film que nous avons joué justement, que nous avons enregistré.
Yehudi Menuhin, que pensez-vous de vous?
Mais c'est pas trop mal, vous savez. C'est très drôle. Ça me rappelle une histoire. Quand nous étions à bord de l'île de France, on avait une musique qui était répandue, jouée en disque par tout le bateau. Et ma femme et moi, nous étions tranquillement dans notre cabine et nous avons écouté cette version du concerto de violon de Beethoven. Et nous l'avons écouté et j'ai trouvé que c'était très bien. Je me demandais qui aurait pu l'enregistrer parce que j'aurais aimé le jouer comme ça. Et à la fin, j'ai téléphoné et je lui demandais quel disque c'était. Et il a dit c'était mon enregistrement. Parce que je n'écoute presque jamais mes propres enregistrements.
Parce que vous êtes étonné par votre talent?
Je ne sais pas ce que c'est, mais il paraît, alors je suis assez content, que quand je joue, j'exprime ce que je veux exprimer, ce qui est bien.
Il y a une chose qui me plaît beaucoup chez vous, Yehudi Menuhin, c'est le respect que vous avez des autres.
Je suis content que vous dites ça. Ce n'est pas seulement des autres, mais j'ai un respect pour la vie, pour tout ce qui vit. Non seulement tout ce qui bouge sur deux pieds, deux jambes, mais les quatre pattes et les microbes de l'air et les plantes et les feuilles très spécialement, comment les appelle-t-on? Worms en anglais. Worms.
Les vers.
Les vers, oui. Parce qu'au fond, nous dépendons des vers, n'est-ce pas? Et les vers sont très importants. Et je trouve que la façon dont on abuse le sol, qu'on le charge de toutes sortes d'engrais artificiels, et qu'on construit des routes sans jamais penser aux vers.
Vous appartenez, Yehudi Menuhin, à une génération angoissée.
Je crois que non. Je crois que c'est la génération entre la mienne et peut-être celle plus jeune que moi, ou peut-être la génération suivante à la mienne.
Oui, mais vous revendiquez toutes ces angoisses.
Ah oui, parce que je les partage. Je vis dans ce monde et je partage tout ce qui inquiète ce monde. Je ne vis pas c'est-à-dire je ne prends pas un refuge dans le passé. Quelquefois, j'aimerais pouvoir oublier ce qu'il y a de terrible dans le monde, mais je ne peux pas. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'être rassuré par les belles choses. La famille, au moins quelques îlots de tranquillité, la maison que ma femme a si merveilleusement, avec son goût impeccable, qu'elle a meublé à Londres et en Suisse. Il y a tout de même, ce sont là des endroits où je suis rassuré. Mais malgré cela, on ne peut pas être rassuré dans ce monde. Il faut essayer de faire, dans la mesure du possible, dans ce qui est possible à moi, il faut faire ce qu'on peut pour sauvegarder les choses importantes et la vie, surtout la vie qui est maintenant en grand danger.
La cellule familiale, c'est votre refuge.
C'est vrai, oui. Oui.
Vous l'assurez complètement, ce refuge?
On ne peut pas l'assurer complètement. Enfin, je fais de mon mieux, mais il y a dans la vie un élément qui restera toujours, un élément d'insécurité. On ne sait pas ce qui va arriver du jour au lendemain. Mais il faut vivre tout de même sans que cette anxiété joue. Il faut vivre comme s'il n'y avait pas d'anxiété du tout. Et en effet, il faut oublier l'anxiété, parce que ça ne sert pas. Ça sert simplement, c'est ce qui arrive hors des murs, pour ainsi dire.
Nous parlions du monde tout à l'heure, et ce monde, vous le trouvez brutal, égoïste et sans doute parfaitement inhumain.
Et aussi très beau et très intéressant. Et l'esprit humain a conquis des domaines extraordinaires, conquis peut-être pas, mais pénétré dans les domaines extraordinaires. Et il y a des possibilités aujourd'hui qui n'ont jamais existé, des possibilités plus riches, plus grandes, plus importantes. L'homme devient maintenant adulte, l'humanité, c'est-à-dire parlant de l'humanité, comme entité unique. Et il y a le grand danger que l'humanité ne fera pas la transition que j'ai fait moi-même et que d'autres ont fait entre l'enfance et l'adulte, entre l'enfant et l'adulte. C'est justement le grand danger. Et peut-être parce que je suis passé moi-même par cette transition que je me donne tellement de peine pour essayer justement d'encourager, de contribuer à ce passage assez tourmenté que maintenant passe l'humanité.
Je crois savoir, Yehudi Menuhin, que lorsque François Reichenbach a commencé son film, vous lui avez dit « J'aimerais bien que ma vie commence par les Indes et se termine par les Indes ». Est-ce vrai?
Oui, j'ai pensé. N'est-ce pas? On se fait différentes idées. Parce qu'il faut avoir quelque chose en tête comme thème, comme ensemble. Et évidemment, c'était tout au début, c'était une idée comme une autre, ce n'était pas nécessairement obligatoire. Et en effet, ce n'est pas exactement comme ça que le film a pris sa forme. Mais c'était une idée, et nous avons en effet commencé, le travail aux Indes, c'était le premier travail qu'on a fait. Je ne sais pas si c'était le tout premier, je crois avant, il y avait encore un petit voyage en Écosse, où j'écoutais des violonistes rude, indigène. Vous savez, le violon écossais avec les merveilleuses ballades et les danses qu'on joue. Il y avait des violonistes, comme je dis, comme les tziganes, mais pas des tziganes cette fois, c'était des Écossais qui jouaient leurs propres airs. Et j'étais juge.
Si vous aimez les Indes, Yehudi Menuhin, c'est sans doute parce que ce pays est peut-être le seul qui ait su garder l'intégralité de sa vie religieuse. Disons de sa vie spirituelle.
Oui, évidemment, vous pouvez voyager aux Indes aujourd'hui et trouver que le pays a beaucoup perdu de ce point de vue, mais on y retrouve encore. On ne peut pas avoir une civilisation qui a duré si longtemps, avec plusieurs centaines de millions de personnes, sans qu'il y ait une puissance qui maintient quelque chose. Et on trouve exactement ce que vous dites, on trouve encore au moins les restants, sinon plus, de la tradition qui exigeait que tout art soit une manifestation religieuse. Et la musique comme la sculpture. D'ailleurs, ce qui est intéressant, ce qui nous a émerveillé aux Indes, c'est que tout était religion, mais la religion aussi permettait tout. C'est-à-dire, tandis que notre religion a cherché à maintenir l'homme dans un corset un peu étroit, et éloigner ce qu'il y a de faible ou de et tourner le dos au diable, pour ainsi dire. Le diable même est gentiment apprivoisé par la religion hindoue. Et il joue son rôle, et son rôle est admis, et il est accepté dans la bonne société. Et ça, je trouve une chose assez rare, une chose assez extraordinaire.
Et est-ce parce que vous êtes dans les lumières de la gloire que vous avez su mieux voir que les autres les misères de l'Inde? C'est ce qui vous a attiré?
Les misères des Indes, évidemment, il y a la misère, il y a la misère partout. Et s'il n'y a pas la misère physique, il y a une misère de l'esprit ou de l'intellect. Et s'il n'y a pas une misère physique, il y a une misère mentale, comme dans les prisons et les camps de concentration. Alors vous trouverez répandu dans le monde, comme l'air et l'eau, vous trouverez de la misère horrible. Mais nous avons trop facilement jugé de cette misère qui va évidemment en croissant, parce que maintenant, à Calcutta, c'est une chose terrible. Pourtant, l'Inde fait de son mieux pour accepter et pour nourrir ses réfugiés. Mais dans la misère même, et il y a certains éléments, et je voulais dans ce film montrer un village où ce n'est pas la misère. Je voulais comparer la misère de la ville avec la misère de la campagne, n'est-ce pas? La misère villageoise. Maintenant, cette misère du village, un homme de l'Ouest, un bon Français, Belge, Allemand, Américain, viendrait là et dirait que c'est pauvre, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de frigo, il n'y a pas de route, que c'est poussiéreux, on n'est pas habillé en des complets fabriqués dans une fabrique, il n'y a pas d'argent, que c'est pauvre. Pourtant, je voulais montrer justement qu'il y a différentes espèces de pauvreté et qu'il y a certains aspects de la pauvreté qui sont plus dignes, plus nobles, plus sages, plus heureux même que certains de nos aspects riches qui prétendent nous donner tout ou nous prétendons pouvoir tout faire, tout avoir et qui nous laissent au fond plus pauvres que ne sont ces pauvres.
Et la pauvreté, à ce moment-là, est une richesse.
Oui, c'est une richesse. Je voulais justement démontrer ce principe aux Indes. Et je suis content que le film, je crois, ait pu communiquer un peu de cette vérité.
J'ai retenu, Yudhiminuin, ce que disait Nehru de vous. Il disait, une rencontre avec Yudhiminuin illumine le cœur et donne une plus grande confiance en ce monde. C'est donc qu'il reconnaissait en vous le sage.
Je ne sais pas. Il y a tellement de sages aux Indes qui peut-être il a le nez pour le sage, mais je ne crois pas que je suis digne de cet éloge. Enfin.
S'il fallait retenir les vraies qualités de Yudhiminuin, quelles sont celles que vous voudriez que l'on retienne? Les qualités de musicien, de violoniste ou vos qualités d'homme?
Vous voyez, je ne suis pas du tout sûr de mes qualités d'homme. Je suis un peu plus sûr des quelques qualités du violoniste. Peut-être aimerais-je avoir été un bon père. Encore, c'est grâce à ma femme que je peux dire que j'étais un bon père. Autrement, ça ne marcherait pas. Et avec Jérémy, justement, une des joies les plus grandes que j'ai eues, c'est d'avoir joué et aussi enregistré le Quatuor de Forêt avec piano et Maurice Chandron et Ernst Wallfisch à l'alto. C'était vraiment très agréable. Nous avons d'ailleurs joué cette même œuvre à Paris, à Fontainebleau.
Yudhiminuin, je vous écoute depuis 45 minutes et je suis d'accord avec votre sœur qui disait « Quand Yudhi est là, rien de mauvais n'arrive. Vous inspirez confiance. »
Pour ça, je suis très reconnaissant. Mais aussi, est-ce une certaine responsabilité? Je ne garantis pas le succès de ma présence, par exemple, si ça se trouvait, voyons, en Indochine, au Vietnam, il y a tellement d'endroits, à Berlin. Ce serait bien si ça marchait comme ça, si c'était une chose magique qui réussissait toujours.
Vous êtes rassurant pour les petites choses. Yudhiminuin, un écrivain israélien, a écrit un jour, ou plutôt a vu en vous, et il l'a écrit, c'est un nouveau Christ. Ça a dû vous effrayer.
Oui, c'est effrayant.
Ça a été écrit, vous le savez.
Non, je ne savais pas.
Je l'ai retrouvé dans un article.
Oui, il faut peut-être éviter Jérusalem, c'est un peu dangereux.
Yudhiminuin, la politique vous intéresse?
Oui, elle m'intéresse, et dans la mesure où je peux peut-être contribuer un peu, enfin, je ne fais pas la politique, mais je suis pour le moment président du Conseil international de musique. C'est le plus proche que je viens à la politique, et c'est par la musique, par des réunions internationales. C'est un peu comme ça que je maintiens contact.
Enfin, la politique vous intéresse si elle est un tremplin pour un progrès social.
Oui, je crois, là vous avez raison. Oui.
Est-ce que vous vous rappelez votre premier concert, Yudi Menuhin ?
Oui, très bien, je me rappelle tous mes premiers concerts. À San Francisco, mon tout premier, j'avais presque 6 ans, ou à peu près 6 ans, et je jouais dans un concert de Noël que la ville a organisé pour un public encore innocent. Parce qu'aujourd'hui, ces concerts n'attiraient pas grand monde, mais dans une ville assez jeune et gentille comme était San Francisco, les enfants de la ville, organisés par la ville, qui jouaient quelques instruments ou qui venaient sur la scène faire quelques scènes de théâtre, ça attirait une foule de 12 000 personnes. Et peut-être encore, ce qui les attirait était un arbre qu'on avait traditionnellement apporté à San Francisco tous les Noëls, un de ces énormes arbres qu'on enlevait à la montagne, au Sierra, qui était aussi haut que le plafond de cette énorme salle. Enfin, une chose assez majestueuse. Et tout décoré avec tout ce qu'il y a, les petites chandelles, les bougies et tout, de Noël, et des cadeaux pour les enfants. Et je suis arrivé là, j'ai joué la scène de ballet, je crois, de Berlioz. J'ai oublié le compositeur. Et c'était... J'étais impressionné par le fait que j'allais jouer tout seul, là, devant ce grand public, un petit morceau. Mais ça s'est bien passé. Et j'ai joué à San Francisco mes premiers concerts. C'est concert avec orchestre, concerto de Tchaïkovski, avant de venir en France. Ça a dû être en 26... Non, plus tôt que ça.
Pour avoir donné votre premier concert à 6 ans, il a fallu que vous teniez la baguette, enfin l'archet plus précisément, à 2 ou 3.
Non. Je n'avais joué qu'un an. Je n'avais travaillé qu'un an.
Donc vous aviez le don.
Oui, je pense. Il faudrait dire. Et certains enfants marchent à 9 mois. Ce qui n'est d'ailleurs pas toujours bien pour leurs jambes.
Et c'est la bonne réflexion d'un critique qui disait « Ce n'est pas du talent, c'est du génie. »
Ça, je trouvais exagéré. En toute honnêteté, c'est exagéré.
Enfin, on vous a donné beaucoup de noms. On vous appelait le David du violon, l'orgueil de l'Amérique à ce moment-là, l'Einstein du violoniste, le violoniste du siècle.
Oui, tout exagéré.
C'était beaucoup, non?
Oui.
C'était trop?
Ah oui, enfin, si vous me demandez... Si c'était juste, je dis c'était beaucoup trop, oui.
Il y a une anecdote aussi qui me plaît beaucoup. À un certain moment, vous partiez délibérément vers la gloire. Vous aviez un peu plus de 16 ans, je crois. Et votre mère vous a dit « Accorde-moi cette année avant que tu ne deviennes un homme et ne repartes à travers le monde. » Et cette année, je crois que c'était l'année 35, vous l'avez appelée « l'année de maman ».
Oui, oui, c'est juste. C'était d'ailleurs une année très, très agréable. Et je cherche une année telle maintenant. Il faudrait aussi trouver une année absolument sans concert. Une année inoubliable, où j'ai aussi eu ma première voiture. Vous voyez comme j'étais simple. Et encore, c'était une joie d'avoir une voiture en 35 en Californie. Il n'y avait pas encore trop de voitures. Aujourd'hui, c'est impossible, intenable. Mais je me suis acheté cette voiture d'occasion, que j'aimais beaucoup. Je me promenais avec les jeunes, nos amis, mes sœurs et nos amis qui venaient passer l'été avec nous, partout dans la montagne. Je choisissais toujours les routes les plus mauvaises et les plus étroites, parce que ça m'amusait. Et j'allais, et quelquefois je trouvais que la route n'avait pas de continuation, il fallait reculer. Et c'était ça qui m'amusait énormément.
Il y a une tribu Menuhin.
Ah oui, tout
à fait. Il y a les sœurs, il y a les enfants, oui. Il y a la femme, bien sûr.
Ah oui, mais aussi ça remonte au rabbin chassidique. En Russie, il y a tout un livre de ce lignage de rabbins en Israël, dont je suis, je crois, un des derniers.
À un certain moment, la presse israélienne n'était pas tellement favorable. Parce que vous aviez pris la défense de musiciens allemands.
C'est juste. Quand j'étais à Paris, tout de suite après la guerre, j'ai demandé, simplement par intérêt, aux musiciens français, quel serait l'allemand, le musicien allemand, qui serait à ce moment le bienvenu en France. Ils ont tous répondu comme d'une voix, Furtwängler. Ils ont dit, il est venu avant la guerre, mais aussitôt que Hitler a pris le pouvoir et qu'on voulait l'exploiter comme élément de propagande, il a refusé de venir. Aussi avais-je appris par d'autres collègues que Furtwängler, restait en Allemagne, a aidé plusieurs musiciens juifs à échapper. Leur appel et leur passage leur a fait s'enfuir. Alors, quand on m'a demandé cette même question à l'arrivée à New York, à mon arrivée quelques jours plus tard, j'ai naturellement répété ce que m'ont dit mes collègues français. Ça a été d'abord exagéré. Les journaux ont dit que je voulais que Furtwängler vienne à New York tout de suite. Ensuite, ça a été exploité. Et ça a été exploité justement d'une façon assez naïve et stupide, mais suffisamment pour mettre une grande partie, disons peut-être pas une majorité, mais une très grande partie de la population d'Israël contre moi, parce qu'ils ont pensé que j'étais traître, que je ne pensais pas aux terribles souffrances et enfin tout ce qui est arrivé au peuple juif sous les nazis. Par contre, j'étais tout le contraire dans mon cœur. Et aussitôt qu'ils ont reconnu, quand je suis arrivé en Israël, aussitôt qu'ils ont reconnu que je faisais partie de ce peuple, que je les aimais bien, que je ferais tout pour eux, et que c'était simplement par principe que je trouvais qu'il fallait mentionner un homme juste et autant d'Allemands qui étaient sans faute que possible, et qu'il fallait jouer en Allemagne aussi. Quand ils ont compris mon point de vue, tout ça, c'est immédiatement, mais dans quelques heures, c'est apaisé.
Enfin, oublions tout cela. Yehudi Menuhin, avec vous sont venus aujourd'hui dans ce studio le producteur du film Chemin de lumière, Bernard Chevry, et François Reichenbach. Je voudrais demander à François Reichenbach si Menuhin est un bon acteur. Tout à l'heure, il m'a dit que Arthur Rubinstein était meilleur que lui.
Non, un très mauvais acteur.
Oui.
Un très mauvais acteur, parce qu'il est trop vrai dans la vie pour être un bon acteur. Ce qui ne veut pas dire que Rubinstein n'est pas vraiment... Enfin, je veux dire, il n'a pas le don.
Enfin,
il paraît qu'il était très mauvais dans le rôle de Paganini, d'ailleurs.
Ah oui.
Enfin, ce sont là des monstres sacrés. Donc, il doit être très difficile de travailler avec des hommes comme Yehudi Menuhin lorsqu'ils deviennent des artistes. Lorsqu'ils redeviennent des artistes. L'homme est merveilleux. L'homme, lorsqu'on parle avec lui, il est là devant moi. On passerait des heures. Mais lorsqu'il est avec son violon, qu'il est inspiré et qu'il travaille, c'est sans doute tout à fait différent, François Reichenbach.
Oui, mais il a quelque chose qui est merveilleux, qui est beaucoup plus qu'un acteur, c'est-à-dire, j'ai l'impression que sur son visage apparaît un mot qui va lui déplaire, un peu le divin, quelque chose au fond d'habité, quelque chose qui fait le miracle Menuhin. C'est ça dont on n'a pas parlé.
Oui.
Un visage, pour moi, me suffit. Quand il y a un regard, et en plus la musique, qu'est-ce que vous voulez de plus?
Et j'ai l'impression, ça rejoint un peu ce que je pense, Yehudi Menuhin, vous ne pouvez pas avoir de sentiments malhonnêtes. Je veux dire, par là, vous ne savez pas ce que c'est que la jalousie, l'hypocrisie et la méchanceté.
C'est vrai. Je crois cela est peut-être vrai. Pourtant, je pourrais être assez brutal avec quelqu'un que je trouve n'est pas... Enfin, fait quelque chose de cruel ou de mauvais. Oui.
Quelle est pour vous la plus grande misère du monde?
C'est l'étouffement, je crois, ce qui étouffe l'homme et ce qu'il y a de pur, ce qui ensevelit ce qui est propre et ce qui étouffe ce qui voudrait s'exprimer.
François Reichenbach, vous vouliez dire quelque chose, je crois.
Non, je dis quelquefois, dans cet homme-ci que vous connaissez, que je n'ai pas plus besoin de décrire, il y a quand même une fois ou deux, certaines explosions. C'est l'injustice. L'injustice, il ne supporte pas.
C'est vrai? Vous ne supportez pas l'injustice?
Non, je crois c'est vrai. Oui, c'est vrai.
Vous avez quelque chose à vous reprocher?
Ah, mais il y a certains actes injustes que j'ai commis moi-même, oui.
Yehudi Menuhin, si cette vie était à refaire, s'il fallait recommencer à 10 ans, vous le referiez?
Oui, je le referais, mais à condition que je commencerai avec ce que j'ai déjà appris maintenant.
Merci, Yehudi Menuhin.